Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 17 mars 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Israël au bord d'une guerre civile. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les États-Unis et le régime israélien sont à l'origine des problèmes dans la région. Déclaration d'Ali Shamkhani, haut responsable iranien pour la sécurité nationale. D'où le standard, l'opinion publique mondiale en a marre, a déclaré Téhéran. Et puis les réformes des retraites en France, le gouvernement français risque une motion de censure. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a exhorté l'Occident à inciter Kiev à cesser de porter des accusations sans fondement contre Téhéran et à s'engager plutôt dans des négociations formelles. Nous avons déjà discuté de la source de la situation actuelle en Ukraine, ainsi que de l'opposition de l'Iran à la guerre, a-t-il déclaré au chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, lors d'une conversation téléphonique jeudi 16 mars. L'Ukraine et les pays occidentaux ont accusé l'Iran de fournir à la Russie des drones militaires destinés à être utilisés dans le cadre du conflit. Téhéran a catégoriquement rejeté ces allégations. Au lieu de porter sans cesse des accusations sans fondement contre l'Iran, l'Occident devrait encourager l'Ukraine à présenter des preuves lors d'une réunion officielle des délégations politiques et militaires des deux pays et remplacer les accusations sans fondement et répétitives par des négociations formelles, a déclaré le ministre iranien, soulignant que l'Iran a toujours soutenu la paix et non la guerre. Le chef de la diplomatie de la République islamique d'Iran a également déclaré qu'il serait prêt à contribuer à l'instauration de la paix en Ukraine lors de sa prochaine visite en Moscou ce mois-ci. Le haut responsable iranien de la sécurité lie la majorité des problèmes de la région aux agissements des États-Unis et du régime israélien. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Shamkhani, a fait ses remarques lors d'une visite officielle à Abu Dhabi le jeudi 16 mars, au cours de laquelle il a rencontré le président des Émirats arabes unis, le Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. M. Shamkhani a une nouvelle fois souligné le rôle joué par les pays extra-régionaux dans la formation des crises régionales, mais n'a pas exclu la possibilité de renforcer la sécurité collective régionale grâce aux efforts conjoints des acteurs régionaux. Les efforts déployés pour parvenir à une sécurité collective fondée sur les capacités locales peuvent servir à mettre fin à un bon nombre de crises actuelles, a-t-il déclaré. La formation d'une région plus forte est un idéal réalisable vers lequel nous devons tous avancer, a noté le responsable iranien. Aujourd'hui, le monde musulman et la région du Golfe Persique ont avant tout besoin d'amitié, de coopération et de convergence régionale, a-t-il ajouté, notant que cet impératif peut conduire à la transcendance de tous les pays musulmans et apporter le bien-être et calme. Quelques jours après que l'Iran et l'Arabie saoudite ont accepté de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades dans les deux mois à venir, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réagi à l'accord conclu par les deux pays voisins. Le secrétaire d'État américain a déclaré mercredi qu'il était optimiste quant au rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Si cet accord se concrétise, et en particulier si l'Iran respecte, selon ses mots, les engagements qu'il a apparemment pris, ce serait positif, a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse à l'université d'Addis Abeba au cours d'une visite en Éthiopie. De notre point de vue, tout ce qui contribue à réduire les tensions, à éviter les conflits et à freiner les actions dangereuses ou déstabilisatrices de l'Iran est une bonne chose, a encore allégué M. Blinken. Soulignant le rôle de la Chine dans la reprise des relations bilatérales entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le secrétaire d'État américain a poursuivi « Je pense qu'il est utile que les pays, lorsqu'ils le peuvent, prennent des mesures et assume la responsabilité de faire progresser la sécurité et les relations pacifiques. » Par ailleurs, et en réaction à l'accord irano-saoudien, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby, a pour sa part exprimé l'espoir d'une fin de guerre au Yémen. Nous aimerions voir la fin de cette guerre au Yémen et cet accord pourrait nous aider à parvenir à une telle issue, a-t-il déclaré. La diplomatie iranienne a dénoncé les propos hypocrites du chancelier allemand sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran. Réagissant aux propos iranophobes d'Olaf Scholz lors de sa rencontre avec le premier ministre israélien, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré Les pays indépendants et l'opinion publique mondiale ont marre de telles positions et comportements fondés sur le double standard et sont de plus en plus fermes sur le fait que les allégations et les accusations occidentales contre l'Iran sont hypocrites et non fondées. Les allégations selon lesquelles la République islamique d'Iran cherche à se doter d'armes nucléaires et qu'un Iran nucléaire représente une menace pour d'autres, ce n'est que la répétition des alignements fréquents des autorités allemandes avec le régime sioniste, a affirmé Nasser Kanani. Les forces navales iraniennes, chinoises et russes se sont entraînées les exercices Photoex. Les unités participant aux manœuvres navales conjointes Ceinture de sécurité maritime 2023 ont effectué les exercices Photoex. Le contre-amiral Mostafa Tajeddini, porte-parole des manœuvres navales intitulées Ceinture de sécurité maritime 2023, a déclaré que les unités flottantes de l'Iran, de la Chine et de la Russie s'étaient entraînées pour la mission Photoex. Toutes les étapes de l'exercice se déroulent sous la surveillance aérienne des hélicoptères de la marine, de l'armée et du corps des gardiens de la révolution islamique, a-t-il déclaré. La présence de la République islamique d'Iran dans les coalitions internationales témoigne de l'amélioration du statut international du pays, qui attache une importance particulière au rétablissement de la sécurité régionale et internationale. Et c'est pour cette même raison que les forces navales iraniennes préviendront toute menace dans la zone maritime. Les forces navales de la Chine, de l'Iran et de la Russie ont organisé des exercices conjoints dans le nord de l'océan Indien. Dans le courant de la journée de jeudi, les tirs sur des cibles aériennes dans l'obscurité ont été couronnés de succès, a-t-il déclaré. Le tir sur des cibles aériennes dans l'obscurité nécessite une coordination. Le scénario de cet exercice a été conçu et mis en œuvre avec succès sur la base d'un langage tactique commun entre les forces navales iraniennes composées de la marine de la République islamique d'Iran et de la marine du CGRI, ainsi que celles de la Chine et de la Russie, a-t-il encore expliqué. Parmi les autres objectifs figurent le renforcement de la sécurité du commerce maritime international, la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, les mesures humanitaires et le partage des connaissances, a ajouté l'amiral Tajuddini. Il a fait allusion à l'importance de la région du nord de l'océan Indien et a conclu « Le nord de l'océan Indien se situe entre trois détroits stratégiques du monde, les détroits d'Ormuz, de Malacca et de Bab el-Mandeb sont situés respectivement au nord, à l'est et à l'ouest de l'océan Indien, entourant l'ellipse énergétique mondiale. » L'actualité internationale avec les évolutions en Palestine, les forces israéliennes ont tué 4 autres Palestiniens lors d'une attaque dans la ville occupée de Jenin en Cisjordanie. Le ministère palestinien de la Santé affirme que 5 personnes ont également été blessées. Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont également blessé plusieurs Palestiniens dans la ville de Naplouse. Les troupes du régime ont pris d'assaut la zone pour protéger un certain nombre de colons israéliens qui étaient sur le point de pénétrer par effraction dans le site archéologique du tombeau de Joseph. Israël mène des agressions violentes presque quotidiennement depuis la formation du nouveau cabinet d'extrême droite du régime sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Depuis le début de l'année, près de 90 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, soit par les troupes du régime, soit par des colons. Le président chinois est attendu à Moscou du 20 au 22 mars, alors que Pékin souhaite jouer un rôle constructif en Ukraine. La Russie et la Chine entendent par ailleurs renforcer leurs relations de partenariat et leur coopération stratégique. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, se rendra en Russie du 20 au 22 mars 2023 à l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin dans un communiqué ce 17 mars. Le président chinois a été réélu le 10 mars à l'unanimité par les députés, reconduit pour un troisième mandat à l'issue d'un scrutin sans appel. Une victoire saluée avec enthousiasme par Vladimir Poutine. La rencontre entre les deux présidents à Moscou sera l'occasion de renforcer les relations de partenariat global et de coopération stratégique entre les deux pays, ainsi que l'approfondissement de la coopération russo-chinoise sur la scène internationale. Plusieurs documents bilatéraux importants seront signés, précise-t-on, à Moscou. Cette visite, qui sera la première depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, intervient au moment où les États-Unis expriment des soupçons sur une potentielle livraison d'armes chinoises à la Russie, une information démentie par Pékin. Enfin, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues à travers la France pour manifester publiquement leur colère face à la décision du gouvernement d'imposer un projet de loi controversé sur la réforme des retraites sans vote du Parlement. Dans la capitale parisienne, la police a reçu l'ordre de prendre position dans les rues pour réprimer les manifestations. Plus tôt jeudi, le gouvernement a utilisé un pouvoir constitutionnel spécial pour imposer le projet de loi de réforme à la chambre basse de l'Assemblée nationale sans donner aux législateurs la possibilité de voter. Le projet de loi fait passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Paris affirme que c'est le seul moyen d'empêcher l'effondrement du système actuel. Selon la police parisienne, environ 120 manifestants soupçonnés d'avoir tenté de causer des dommages à des lieux publics ont été arrêtés le jeudi 16 mars. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. We'll be right back. Israël au bord d'une guerre civile. Les réformes judiciaires conduisent Israël à une guerre civile. 58% des Israéliens pensent qu'une guerre civile ou des affrontements violents dans les territoires occupés sont probables, selon un sondage réalisé par la chaîne 13 de la télévision israélienne. Ce sondage a été réalisé après des vagues de manifestations de désobéissance et de tensions dans les territoires occupés, dues aux protestations contre les soi-disant réformes judiciaires du premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou, visant la Cour suprême. Il convient de noter que Netanyahou est revenu au pouvoir en tant que Premier ministre fin décembre 2022, à la tête d'une coalition de partis d'extrême droite et extrémistes. Afin de s'attirer la loyauté de ces partis, il s'est engagé à apporter des changements majeurs au système judiciaire. Les changements qu'il propose visent à retirer à la Cour suprême la possibilité d'annuler les décisions prises par le cabinet extrémiste Netanyahou et par la Knesset. Ces prétendues réformes ont déjà été approuvées en première lecture par la Knesset. Les députés israéliens ont approuvé par 63 voix contre 47 les projets de loi qui modifient le processus de nomination des juges et permettent au Parlement d'annuler certaines décisions de la Cour suprême à la majorité simple. Les deux projets de loi doivent être renvoyés à la Commission parlementaire des lois pour un débat plus approfondi avant d'être votés en deuxième et troisième lecture en session plénière pour devenir des lois. Pour protester contre le projet de réforme judiciaire controversé, des dizaines de milliers de manifestants organisent régulièrement des rassemblements hebdomadaires dans les territoires occupés, jurant de ne pas quitter les rues tant que Netanyahou n'aura pas abandonné le projet de loi. Les observateurs estiment que les réformes pourraient permettre à la Knesset d'annuler une série d'accusations de corruption pour lesquelles Netanyahou est jugé, à savoir corruption, fraude et abus de confiance. À cet égard, l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a appelé les dirigeants mondiaux pro-israéliens à boycotter Benjamin Netanyahou, révélant que les réformes judiciaires proposées par le premier ministre et son parti, que les Israéliens ont qualifié de coup d'État, visaient à mettre un terme au procès en cours contre Netanyahou. Les réformes permettent également à la Knesset de modifier les lois fondamentales, la quasi-constitution du régime, comme elle l'entend. Les partisans du projet soutiennent toutefois que ces changements sont nécessaires pour limiter la capacité de la Cour à s'immiscer dans la vie politique.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans ce débat, il sera question du rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite par la médiation chinoise. Nous allons étudier à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure les aspects donc, de cette annonce et également les impacts donc des relations entre les deux pays, pour déjà les deux pays, mais également pour les pays de la région et pourquoi pas au-delà. Et nous allons voir également la puissance diplomatique de la Chine dans cette médiation, ce qui ne réjouit pas forcément à Israël, aux États-Unis et à certains pays européens. Et je vais vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Morgan Lotz. Depuis l'Alsace, il est iranologue et juriste en droit international. Monsieur Lotz, bonjour.
Bonjour, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation et également de saluer toute votre équipe et mon collègue avec qui je vais débattre.
Très bien. Un grand bonjour également à Jacob Cohen. Depuis Paris cette fois, il est écrivain et analyste politique. Monsieur Cohen, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Voilà, merci d'accorder votre temps à cette émission. Ma première question va s'adresser à vous, M. Jacob Cohen, alors depuis Paris. Alors, nous parlons bien sûr du rétablissement des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran et par la médiation chinoise. Et ma question est la suivante. Quels sont, d'après vous, les impacts pour les deux pays, mais également pour les pays de la région?
D'abord, ça élimine une menace de guerre entretenue insidieusement par l'axe américano-sioniste. Vous savez que, rappelez-vous la guerre entre l'Iran et l'Irak. Malheureusement, les deux pays sont tombés dans le piège tendu par... Enfin, au départ, c'était Saddam Hussein, et il a payé très cher une guerre de 8 ans dont les Américains avaient fourni les deux belligérants en armement. Et toute l'action de l'Amérique et d'Israël, bien sûr, était de susciter une animosité irréversible, irrémédiable entre ces deux grands pays. Et d'ailleurs, la propagande israélienne a toujours fonctionné pour établir des relations diplomatiques avec les monarchies du Golfe. La diplomatie israélienne, le renseignement israélien, la propagande, parlait toujours de l'impérialisme iranien, d'offrir la sécurité à ces monarchies pour les préserver de tout expansionnisme iranien. Et donc, le fait déjà d'échapper à ce piège tendu par l'Occident, par l'Amérique et Israël, le fait d'échapper à ce piège et de se dire « Non, nous ne voulons pas, nous n'irons pas vers la guerre, nous diminuerons la tension, nous chercherons des relations pacifiques », c'est un coup dur porté contre l'hégémonie américano-sioniste dans la région. Et une détente extraordinaire qui peut avoir des résultats très positifs dont nous reparlerons, je pense.
Bien sûr, merci. Alors, nous avons entendu l'introduction de M. Cohen. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Morgan Lotz. Les impacts de ces relations rompues depuis 2016, M. Lotz.
Oui, alors déjà, il faut noter que... Je souhaiterais avant tout rappeler l'histoire. Donc, il faut noter que les ruptures des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite sont intervenues en janvier 2016, suite à l'exécution de l'ayatollah Nimr al-Nimr, le 2 janvier 2016, avec 47 autres personnes qui ont été décapitées en Arabie saoudite. Ce même jour, il y a eu donc des manifestations en Iran devant les représentations saoudiennes. Donc, il s'agissait de l'ambassade à Téhéran et d'un consulat à Mashhad. Et dès lors, les relations vont donc être rompues. Donc le retour des relations intervient cette année 2023, soit 7 ans après ces événements, avec des conséquences qui peuvent surprendre, qui étaient attendues et qui vont certainement nous surprendre sur le long terme. Donc tout d'abord, on peut citer une ouverture donc des représentations diplomatiques, une reprise des relations diplomatiques, mais également l'ouverture d'une paix durable au Yémen, puisque cela fait partie des choses qui peuvent être discutées. Ça traduit également l'échec américain pour la formation au Moyen-Orient d'une espèce d'OTAN ou d'un équivalent au Moyen-Oriental à l'OTAN qui serait dirigé contre l'Iran. C'est également une transformation de la Chine qui était un acteur économique jusqu'à présent et qui devient un acteur de sécurité géopolitique et de diplomatie. C'est également l'avènement d'un monde multipolaire qui se centre sur l'Orient, c'est-à-dire que ce ne sont plus les États-Unis, ce n'est plus à Washington que se fait la paix et la guerre au Moyen-Orient, mais dans la région et sur le continent même, puisque le Moyen-Orient appartient à l'Asie. C'est également une chance pour la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, puisque deux grandes puissances pouvant être qualifiées de rivales recommencent à se parler, donc elles pourront également se coordonner sur les grandes crises que pourrait rencontrer le Moyen-Orient. Et un autre point qui est positif, c'est la réduction de l'influence américaine dans la région, nous venons de le citer, et également l'affaiblissement de cette hégémonie américaine dans le monde, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus vers Washington que les pays du Moyen-Orient se tournent, mais vers la Chine, qui profite justement de l'effritement occidental en cours. Hein. La diplomatie européenne ne représente plus grand-chose sinon elle-même. Et les États-Unis sont en train de quitter cette région, autant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire, bien qu'il reste des bases américaines en Syrie et en Irak. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que les Américains quittent définitivement le Moyen-Orient. Et c'est...
Je crois bien que notre liaison avec M. Cohen a été coupée. À présent, je m'adresse à M. Oui. Alors, M. Cohen, est-ce que d'abord vous voulez bien réagir face aux propos de M. Lodz? Vous avez dit tout à l'heure que Israël, les États-Unis et beaucoup de pays européens ne se réjouissent pas beaucoup donc, de ce rapprochement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils craignent l'avenir donc, de ce rapprochement qui sera donc au détriment de la politique d'Israël et des États-Unis?
C'est une catastrophe pour l'Occident. Vous savez, les médias israéliens sont vraiment, expriment beaucoup d'inquiétudes. Il y a même une guerre, enfin, une rivalité terrible entre l'ancien gouvernement et le nouveau, qui s'accusent mutuellement d'avoir permis cette possibilité qui était à leurs yeux incroyable et incompréhensible. Et d'ailleurs, même il y a quelques jours, on parlait même de rétablissement, de la possibilité d'établir des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et toute l'action justement d'Israël était de susciter cette crainte. Et d'ailleurs, même les Émirats Arabes Unis, aujourd'hui même, dans un média israélien, ils reconnaissent que les Émirats Arabes Unis, qui ont signé un traité de paix avec Israël, depuis quelques jours, les Émirats Arabes Unis mettent le frein sur la coopération sécuritaire. C'est donc un bouleversement et l'Occident, il sait que c'est un coup fatal porté à son hégémonie dans la région. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'elle avait montré déjà certains signes, la façon dont elle avait accueilli extraordinairement le leader chinois il y a un mois ou deux. Et puis les contrats qui ne sont plus libellés en dollars. Donc, et là, ça vient vraiment, pas le coup de grâce, mais disons un élément important. Et l'Occident sait bien que la terre se dérobe sous eux, c'est-à-dire la terre entière. Non seulement l'Ukraine, l'Afrique, mais là aujourd'hui, maintenant le Moyen-Orient, se dérobent à leur pouvoir et ils doivent être très, très inquiets.
Monsieur Cohen, est-ce qu'ils admettent leurs échecs dans la présence des forces américaines dans la région? C'est la fin donc de l'hégémonie américaine dans la région. Est-ce qu'ils admettent déjà cet échec et ils vont se laisser faire en fin de compte?
Ils n'admettront jamais l'échec. La preuve, c'est que regardez les sanctions contre la Russie au sujet de l'Ukraine. Ils ne reconnaîtront jamais, enfin un jour ou l'autre, comme on dit en psychanalyse, le réel viendra frapper à leur porte. Le réel, il est invincible, on ne peut pas aller contre le réel longtemps. Même aujourd'hui encore, ils continuent à supputer sur l'écroulement de la Russie, sur l'efficacité des sanctions, etc. Donc ils vont certainement réagir, peut-être comme savent le faire les Américains, ou les Israéliens par une politique de déstabilisation. Et peut-être il faut craindre des mouvements en Arabie Saoudite ou des pays de la région. Donc les Américains, c'est leur seule carte aujourd'hui, c'est probablement de susciter des guerres, soit des mouvements islamistes, des Daesh, des revendications, etc. Il ne faut quand même pas oublier que l'Arabie Saoudite, on ne l'a jamais attaqué sur les droits de l'homme, par exemple, la place de la femme, alors que l'Iran, d'autres pays, on ne cesse de les harceler par ce biais. Donc on peut imaginer, par exemple, une espèce de révolution de couleur en Arabie Saoudite ou d'autres pays qui voudraient suivre cet exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, la tendance est tellement forte du détachement vis-à-vis de l'Amérique qu'on ne voit pas vraiment... Enfin, un retour en arrière me paraît extrêmement invraisemblable.
Morgan Lotz, vous voulez bien, nous avions un petit problème technique avec vous tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de M. Cohen, je vous prie?
Oui, bah écoutez, je suis tout à fait d'accord avec M. Cohen. On se détourne des États-Unis, le Moyen-Orient, l'Asie, même aujourd'hui l'Afrique, se détournent des États-Unis, tout simplement parce que la politique américaine n'a jamais été en faveur des autres pays, mais toujours d'un point de vue égoïste. Et je tiens à rappeler, je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit que les Occidentaux ne reconnaîtront pas leur échec parce que les Occidentaux ont un énorme problème. C'est le même qui a conduit Satan à être déchu du ciel, c'est l'orgueil. Et l'orgueil ne leur permet pas de reconnaître qu'ils ont échoué, de reconnaître que la politique de sanctions est un échec partout dans le monde, autant en Iran qu'en Corée du Nord qu'en Russie. Ces pays n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais aussi bien réussi à développer leur programme économique, leur programme militaire, leur programme sociaux également. Et M. Cohen a tout à fait raison en disant que le réel va rattraper l'Occident. Et cette médiation chinoise et l'accord qui en a découlé, qui entraîne donc la reprise des liens diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, peut permettre de régler des enjeux de taille pour la région du Moyen-Orient. Alors, on peut penser notamment au retour de la Syrie dans la Ligue arabe, un autre sujet extrêmement important, la fin de la guerre au Yémen, qui est quand même le Yémen qui est quand même un pays martyr depuis 10 ans. Et là, c'est pareil, l'Occident a fourni des armes à l'Arabie Saoudite, mais n'a jamais critiqué l'Arabie Saoudite sur l'utilisation de ces armes au Yémen. Pourtant, ce sont des faits qui relèvent de la Cour pénale internationale.
Absolument. Alors, Monsieur Cohen, bon, il est question bien sûr de la médiation chinoise dans ce rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais comme a évoqué M. Lotz, donc les grandes questions comme celle de la Syrie, et bien sûr le Liban également qui est en cause, la fin de la guerre au Yémen, et pourquoi pas la crise entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous croyez que la Chine, avec cette puissance diplomatique qu'elle a démontrée dans ce rétablissement, est en question?
Le drame pour l'Occident, vraiment, il suffit d'être un observateur même de moyenne importance pour s'étonner du harcèlement de l'Occident contre la Chine actuellement, qui renforce l'alliance entre la Russie et la Chine. C'est totalement incompréhensible. Alors que l'Occident veut affaiblir la Russie, Il dévoile ses cartes contre la Chine, ce qui fait que leur alliance n'a jamais été aussi forte et probablement on ne connaît pas plusieurs de leurs conditions, notamment sur le plan militaire, stratégique, etc. Et puis l'Inde aussi se met de leur côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite profite, comment dire, d'une ouverture exceptionnel sur le plan diplomatique. C'est-à-dire que c'est le moment ou jamais pour des pays comme l'Inde, la Chine, l'Arabie Saoudite, la Turquie, de se dire, si je ne me libère pas aujourd'hui du joug américain, parce que les chefs d'État se rendent compte, les pays se rendent compte que l'Amérique est un État voyou, est un État qui pille, est un État qui est capable de tout, qui n'a aucune morale, aucune éthique. Et donc, ces pays, bien sûr, ils ont toutes les raisons de craindre les États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a, grâce à la Chine et à la Russie, entre autres, il y a vraiment la possibilité pour ces États de se libérer, de se dire, je peux rejoindre. D'ailleurs, je crois que c'est Lavrov qui avait dit qu'il y a, je ne sais pas, je crois 15 ou 20 pays qui frappent déjà à la porte des BRICS. Ça veut dire que un grand nombre de pays expriment leur volonté de se libérer, d'exprimer cette libération. Et la Chine joue un très grand rôle dans tout ce processus.
Mais M. Cohen, également des pays africains, ils font partie de cette liste, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, enfin, l'Afrique du Sud fait partie, mais l'Algérie a demandé à en faire partie, l'Argentine, je ne connais pas la liste, mais Lavrov avait parlé d'une quinzaine, entre 10 et 20 pays qui frappent à la porte des BRICS. Donc, comment dire, c'est une expression d'une volonté d'indépendance. Ça veut dire qu'on n'a plus peur, voilà. Ça veut dire qu'on peut se libérer de l'emprise du dollar. Nous, il ne faut pas oublier quand même que l'Arabie Saoudite a accepté de commercer avec la Chine dans une autre monnaie que le dollar, ce qui a coûté très cher à la Libye et à Saddam Hussein. Et donc, aujourd'hui, grâce à l'appui de la Chine, et grâce à l'affaiblissement de l'Occident face à la Russie, beaucoup de pays peuvent se permettre de franchir le pas.
Oui. Morgan Lotz, est-ce que vous voulez bien nous parler également de cette inquiétude, de cette crainte des États-Unis et d'Israël et des pays européens quant à la médiation qui avance, la médiation chinoise qui avance dans les différents dossiers que ces pays-là n'ont pas pu réussir au cours de ces dernières années?
Oui, donc c'est indéniablement un succès pour la Chine, qui, ça c'est forcément prévisible, va certainement continuer son rôle de médiation dans la région, qui va remplacer les États-Unis, auxquels les pays, que ce soit d'Afrique, d'Asie centrale ou du Moyen-Orient, tournent le dos. Et il y a de quoi s'inquiéter pour les Occidentaux, parce que d'une part, c'est déjà la perte d'un prestige, celui de la diplomatie, notamment française, qui pendant longtemps fut l'une des meilleures au monde, mais qui est depuis une dizaine d'années en déclin total sur absolument tous les continents. Et après, c'est aussi une inquiétude économique et stratégique. Une interrogation aussi se pose, et elle est de taille, qu'en sera-t-il des normalisations entre Israël et les pays arabes? Comment cela va-t-il se poursuivre maintenant que l'Arabie saoudite tourne le dos à ce bloc occidental et se tourne vers la Chine? Donc voilà, une fois de plus, aujourd'hui, les accords de paix se font à Pékin et non plus à Washington. C'est quand même un tournant majeur et très impressionnant, puisque ça fait plus de 80 ans que les grandes décisions géopolitiques se prenaient à Washington, où les grands accords étaient signés à Washington ou quelquefois en Europe. Aujourd'hui, c'est en Chine, c'est à Pékin. Pékin, qui il y a 80 ans, n'avait pas cette puissance. Donc on a vu, durant toute cette guerre froide, l'émergence de la Chine, qui aujourd'hui est en train de dépasser les États-Unis si elle ne l'a pas encore fait, et qui tout simplement est un partenaire, s'affiche comme un partenaire fiable pour le monde entier. Alors on peut citer l'accord sur le nucléaire iranien, ce sont les Américains qui ont quitté l'accord. Ce sont les Européens qui ont dit nous allons créer l'INSTEX pour pouvoir commercer avec l'Iran et qui finalement n'a rien fait. Ce sont les Européens, les Occidentaux qui ont dit nous allons lever progressivement des sanctions et qui au final n'ont pas levé grand-chose. Donc, comment une telle parole peut-elle être crue et respectée? C'est tout simplement impossible. Vous ne pouvez pas faire confiance à un partenaire qui, 3 ans après avoir signé un accord, le quitte, rétablit des sanctions, ne respecte pas sa parole, surtout que l'Iran a toujours respecté ses engagements. Donc, cette rupture de l'accord sur le nucléaire a été catastrophique pour les Occidentaux et a prouvé au monde entier que les Occidentaux ne sont pas un partenaire fiable. Au contraire, la Chine s'affiche comme un partenaire fiable qui respecte sa parole, puisque la Chine investit dans énormément de pays, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique, et la Chine fait ce qu'elle dit. Aujourd'hui, la Chine est un pays qui est en mesure de construire des infrastructures dans n'importe quel pays, de les financer et surtout de former les habitants de ces pays à jouer leur rôle concernant ces infrastructures. Donc la Chine s'affiche comme un partenaire économique fiable, un partenaire politique fiable, et va remplacer les Américains à terme, plus ou moins court. Cependant, l'Iran et la Chine devraient quand même rester prudents. Pourquoi? Parce que il est clair que les Américains et Israël ne vont pas être satisfaits de cet accord et de cette médiation. Donc il y a une possibilité que de nouveaux troubles émergent dans la région, notamment au Moyen-Orient, et je pense notamment au Caucase. Nous en avons parlé assez récemment sur Presse TV. Donc l'Occident n'est pas encore tout à fait chaos et il n'en est que plus dangereux, particulièrement les États-Unis qui s'effondrent et un pays qui a dominé le monde pendant 80 ans ne va pas accepter de passer la main, surtout aux Chinois. Donc c'est ce dont je vous parlais avant, le péché d'orgueil que commettent les Occidentaux, c'est, oui. C'est de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, leur domination est finie. L'Empire romain a dominé 300-400 ans, le califat a dominé 300-400 ans, l'Occident a dominé ces 200-300 dernières années, et aujourd'hui, il passe la main, c'est le cycle de l'histoire. Il faut que les Occidentaux se rendent compte qu'ils n'écrivent pas l'histoire, mais la vivent.
Eh bien, Morgan Lotz, depuis l'Alsace, je rappelle que vous êtes iranologue et juriste en droit international et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Iran. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à M. Jacques Cohen, donc écrivain et analyste politique, qui nous a accompagnés depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur le rôle du général martyr Qassem Soleimani dans l'aboutissement du récent accord entre Téhéran et Riyad. Hommage rendu au général Soleimani pour son rôle dans l'accord Téhéran-Riyad. L'ancien premier ministre irakien a salué le défunt commandant antiterroriste iranien, le lieutenant-général Qassem Soleimani, pour son rôle dans l'aboutissement du récent accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite sur le rétablissement des relations diplomatiques et la réouverture des missions diplomatiques. Cité par la chaîne Al-Ahad, Adel Abdelmahdi, ancien premier ministre irakien, a évoqué le récent accord Iran-Arabie saoudite pour rendre hommage au général Soleimani, ancien commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, le considérant comme celui qui a lancé l'accord entre les deux pays. Abdelmahdi a déclaré que lors d'une visite d'État en Chine en septembre 2019, le général Soleimani lui avait demandé lors d'un entretien téléphonique s'il pouvait se rendre en Arabie saoudite et servir d'intermédiaire entre l'Iran et le royaume saoudien. Le général Soleimani a dit que l'affaire était urgente, affirme l'ancien premier ministre irakien, qui lui a permis de se rendre à Riyad dès son retour à Bagdad. « J'ai informé la partie chinoise de la demande du général Soleimani et elle s'en est réjouie », a ajouté Abdelmahdi, ancien premier ministre irakien. L'ancien premier ministre irakien a poursuivi en disant qu'il avait contacté le gouvernement saoudien qui s'était enquis du but de la visite. « Je les ai informés de la demande de médiation de l'Iran en citant le général Soleimani comme le représentant iranien. Les Saoudiens ont accueilli favorablement la proposition », a déclaré Adel Abdelmahdi. Nous sommes rentrés le 25 septembre 2019 et avons quitté Bagdad dans la soirée pour l'Arabie saoudite. L'ancien premier ministre Mustafa al-Kazemi m'a accompagné ainsi que le ministre du pétrole Tamer al-Ghadban et le secrétaire du cabinet Mohamed al-Hashemi. Nous avons été reçus par le serviteur des deux saintes mosquées, puis nous avons tenu une réunion tard dans la nuit avec le prince héritier Mohammed bin Salman. Abdelmahdi a souligné que l'initiative s'était arrêtée à la suite des frappes contre le géant pétrolier saoudien Aramco et de l'assassinat dirigé par les États-Unis du général martyr Soleimani dans la capitale irakienne. Malheureusement, l'ancienne administration américaine a exécuté son opération lâche. J'ai ensuite transmis la responsabilité au Premier ministre Al-Kazemi le 7 mai 2020. Malgré cela, l'initiative s'est poursuivie et les premières réunions ont eu lieu à Bagdad en avril 2021 en présence de Mohammad al-Hashemi, a-t-il précisé. Cheikh Khaled al-Homaidan dirigeait la délégation saoudienne tandis que la partie iranienne était représentée par le secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité nationale, M. Saïd Iravani, avec la participation d'autres responsables, a-t-il poursuivi. L'ancien premier ministre irakien a également déclaré que de nombreuses parties avaient contribué à la conclusion de l'accord qui, s'il réussit, a le potentiel de modifier non seulement la région, mais le monde. Adel Abdel Mahdi a ajouté que l'accord ne consistait pas simplement à rétablir les liens entre les deux pays, ajoutant qu'il conduirait à une résolution complète des questions sensibles. Les deux parties se sont engagées dans des négociations solides et énergiques et l'accord n'aurait pas pu être conclu sans les développements régionaux et mondiaux, l'influence croissante de la Chine et les garanties des deux parties. L'accord contient une vision partagée de la trajectoire plus large de la région, comme on peut le déduire de la déclaration finale, a conclu Adel Abdel Mahdi. Rappelons que l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé vendredi 10 mars le rétablissement de leurs relations diplomatiques d'ici 2 mois à l'issue des pourparlers en Chine. Divers pays ont salué cette évolution diplomatique importante. Les dirigeants du monde entier, surtout ceux de la région, ont salué l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour la reprise de leurs relations diplomatiques alors qu'Israël ressent un coup fatal. Le gouvernement syrien a exprimé samedi sa satisfaction quant à l'accord conclu entre l'Arabie saoudite et l'Iran et a déclaré que cette étape renforcera la stabilité dans la région. La République arabe syrienne se félicite de l'accord conclu entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran pour la reprise de leurs relations diplomatiques et apprécie hautement les efforts sincères déployés par les dirigeants chinois dans ce domaine, lit-on dans un communiqué du ministère syrien des Affaires étrangères. En Irak, lors d'une interview accordée vendredi à la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, le porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères Ahmed Al-Shahaf a assuré que l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran inaugurera une nouvelle phase d'opportunités collectives. L'accord irano-saoudien vient de couronner la vision des deux parties sur la priorité du dialogue comme moyen de réduire les tensions, a-t-il précisé. Pour sa part, le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyed Hassan Nasrallah a déclaré dans une allocution télévisée vendredi que la reprise des liens entre l'Iran et l'Arabie saoudite était une bonne évolution. C'est un développement important, bien sûr, et s'il suit son cours naturel, il pourrait ouvrir des horizons dans toute la région, y compris au Liban, a-t-il précisé. Au Yémen, le Conseil de transition du Sud a salué l'accord irano-saoudien, espérant qu'il contribuera à consolider la stabilité de la région. Quant au mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas, il a aussi salué ce rapprochement diplomatique, le considérant comme une étape importante sur la voie de l'union des rangs, de l'entente et de la stabilité dans la région. Le Hamas estime que cette étape importante va dans l'intérêt de la cause palestinienne et soutient notre peuple face à l'occupation et ses exactions continues contre notre terre, notre peuple et nos lieux sacrés, indique le communiqué du Hamas. Côté israélien, l'ancien premier ministre du régime sioniste Naftali Bennett a sévèrement critiqué le rétablissement des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran, reconnaissant qu'il représentait l'échec des efforts du cabinet de Netanyahou visant à créer une alliance régionale contre Téhéran.
Thank you.